Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'encre, en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, l'histoire d'un homme toujours entre deux frontières, entre deux mondes, deux cultures. Un voyageur impénitent qui jongle avec les cultures et produit une œuvre aussi éclectique que sa vie, aussi prolifique que ses voyages, aussi passionnante que ses rencontres. Un aventurier de la littérature, un poète qui franchit toutes les lignes d'horizon, qui balance d'une langue à l'autre. Il a longtemps hésité à écrire en anglais, son autre langue familiale. Un arpenteur de la terre, un défenseur de grandes causes et de petits peuples oubliés et souvent menacés. Un romancier qui ne dédaigne pas les essais ni les articles, un touche-à-tout qui se passionne pour le cinéma comme pour la peinture, un auteur qui collectionne les prix littéraires jusqu'au plus prestigieux, le Nobel, rien de moins, et pourtant un homme discret et qui ne se livre guère. Petit conseil avant d'embarquer, prenez une map monde car avec lui on va voyager, attention au décalage horaire.
Son nom et ses prénoms, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Le Clézio, en breton, ça veut dire l'enclos, car l'aventure démarre en Bretagne. Nous sommes en 1794, et le patriarche, fondateur de la dynastie Le Clézio, quitte sa Bretagne natale pour traverser les océans et poser le pied sur ce que l'on appelle encore l'île de France, et qui deviendra, une fois colonisée par les Anglais, l'île Maurice. Les Le Clézio prennent la nationalité anglaise et la dynastie s'installe dans une grande demeure qui sera l'un des berceaux de l'imaginaire de l'écrivain, la Villa Eureka. Cette terre, au milieu de l'océan, fera surgir dans la tête de l'écrivain bien des romans, bien des aventures, bien des personnages. Prenez Mondo. Mondo comme le monde. Trois lignes à peine et vous ne décrochez pas. Vous voilà embarqué.
Personne n'aurait pu dire d'où venait Mondo. Il était arrivé un jour, par hasard, dans notre ville, sans qu'on s'en aperçoive. Et puis, on s'était habitué à lui. C'était un garçon d'une dizaine d'années, avec un visage tout rond et tranquille, et de beaux yeux noirs, un peu obliques. Mais c'était surtout ses cheveux qu'on remarquait. Des cheveux bruns, cendrés, qui changeaient de couleur selon la lumière, et qui paraissaient presque gris. La tombée de la nuit. On ne savait rien de sa famille ni de sa maison. Peut-être qu'il n'en avait pas. Toujours, quand on ne s'y attendait pas, quand on ne pensait pas à lui, il apparaissait au coin d'une rue, près de la plage ou sur la place du marché. Il marchait seul, l'air décidé, en regardant tout autour de lui. Quand il arrivait vers vous, il vous regardait bien en face, il souriait, c'était sa façon de saluer. Quand il y avait quelqu'un qui lui plaisait, il l'arrêtait et lui demandait tout simplement « Est-ce que vous voulez m'adopter ?» Et avant que les gens soient revenus de leur surprise, il était déjà loin.
C'est ça la magie Le Clézio, un talent de conteur qui vous berce des heures entières d'histoires poétiques et toujours riches d'humanité. Pour revenir à sa vie, à ses trajectoires, il faudrait des heures. Vous avez un grand-père qui, après une brouille familiale, certains sont revenus en Bretagne, décide, lui, de partir à la recherche du trésor d'un corsaire sur l'île Rodrigue. À 15 ans, Le Clézio découvre la valise du grand-père avec les plans et les notes de l'expédition. Cela nourrira plusieurs romans, dont Le chercheur d'or.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer mêlée au vent dans les aiguilles des Phylaos, ces grands arbres exotiques. Vent qui ne cesse pas même lorsqu'on s'éloigne des rivages et qu'on avance à travers les champs de canne à sucre. C'est le bruit qui a bercé mon enfance.
Son père, lui, est médecin anglais au service de l'armée britannique au Nigeria et se trouve coincé là-bas au début de la guerre. Le Clézio, né en 1940, et se trouve emmené par sa mère en France, réfugié dans l'arrière-pays niçois pour échapper aux Allemands. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il part en bateau en Afrique à la découverte de ce père lointain et méconnu. Il a 8 ans, une véritable initiation au voyage racontée dans Onitsha.
Il y avait le soleil et la mer. Le navire semblait immobile sur la mer, infiniment plate. Immobile, comme un château d'acier, contre le ciel presque blanc, vide d'oiseaux, tandis que le soleil plongeait vers l'horizon, immobile comme le ciel. Il y avait des jours et des jours avec seulement cette mer dure, l'air qui bougeait à la vitesse du navire, le cheminement du soleil sur les plaques de tôle.
De retour à Nice, Le Clésio a du mal à s'habituer à cette ville clinquante. Plus tard, adolescent, il lira tous les écrivains qui vous parlent de voyage, Kipling, Conrad par exemple, mais aussi Rimbaud bien sûr. Il fréquentera le ciné-club où les grands réalisateurs l'aideront à structurer son imaginaire, Orson Welles, Antonioni, Eisenstein. À 19 ans, le voilà lecteur dans le sud de l'Angleterre, à Bath, puis coopérant en Thaïlande, mais pas pour longtemps. Dénonçant le tourisme sexuel de la Thaïlande, on lui rappelle son devoir de réserve et on l'expédie à Mexico. Et là, nouvelle expérience fondatrice. Après l'île Maurice ou l'Afrique, il tombe en extase devant la culture amérindienne, explore les textes d'Antonin Artaud, se passionne pour la vie de Frida Kahlo. Les écrits se multiplient, essais, romans. Il passe une thèse à Perpignan et réfléchit sur l'acte d'écrire, le sens de la vie, je devrais dire le mystère de la vie.
Quand je n'étais pas née, quand je n'appartenais à rien qui existe, que je n'étais pas encore conçue ni concevable, quand je n'étais ni du passé, ni du présent, ni surtout du futur, quand je n'étais pas vivant, le destin n'était pas mon destin. À quel moment le drame s'est-il engagé pour moi? Dans quel corps d'homme ou de femme, dans quelle plante, dans quel morceau de roche ai-je commencé ma course vers mon visage?
Le Clésio, explorateur du monde comme de lui-même, qui jamais ne se satisfait de la simple apparence des choses, qui creuse, sonde, fouille dans le tréfonds de l'âme et des cultures pour essayer de comprendre la marche du monde. Le Clésio qui écrit comme l'on respire, et son écriture qui va au pas lent des caravanes du désert. Désert, l'un des romans qui contribuera à le faire connaître du grand public, c'était en 1980, et qui mérite bien qu'on s'y arrête l'espace de quelques dunes.
Hiver 1909-1910, ils sont apparus comme dans un rêve au sommet de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement, ils sont descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. En tête de la caravane, il y avait les hommes, enveloppés dans leurs manteaux de laine, leurs visages masqués par le voile bleu.
Avec eux, marchaient deux ou trois dromadaires, puis les chèvres et les moutons, harcelés par les jeunes garçons. Les femmes fermaient la marche. C'étaient des silhouettes alourdies, encombrées par les lourds manteaux, et la peau de leurs bras et de leur front semblait encore plus sombre dans les voiles d'indigo.
Ils marchaient sans bruit dans le sable, lentement, sans regarder où ils allaient. Le vent soufflait continuement, le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit. Le sable fuyait autour d'eux, entre les pattes des chameaux, fouettait le visage des femmes qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. Les jeunes enfants couraient, les bébés pleuraient, les chameaux grommelaient, éternuaient. Personne ne savait où on allait.
Il n'y avait rien d'autre sur la terre. Rien ni personne. Ils étaient nés du désert. Aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient rien. Le vent passait sur eux, à travers eux, comme s'il n'y avait personne sur les dunes. Ils marchaient depuis la première aube, sans s'arrêter. Et l'on pourrait comme ça continuer longtemps, jusqu'à la page 410 qui conclut le roman avec la même poésie, le même sentiment de fatalisme, d'inéluctable, qui pèse sur ces nomades.
Chaque jour, avec les mêmes gestes, ils effaçaient les traces de leur feu, ils enterraient leurs excréments. Tournés vers le désert, ils faisaient leurs prières sans parole. Ils s'en allaient comme dans un rêve. Ils disparaissaient.
Désert de Le Clésio, peut-être le premier livre à ouvrir pour qui veut découvrir l'écriture de celui qui sera couronné Nobel de littérature en 2008, alors qu'il était parti enseigner en Corée. L'homme de tous les voyages, de tous les continents, je vous disais. Impossible de parler de tous ces livres, ils sont trop nombreux. Mais peut-être s'arrêter sur un titre que tout lycéen étudie aujourd'hui, ça s'appelle le procès-verbal. On pense à Camus et à son étranger au début.
Il y avait une petite fois, pendant la canicule, un type qui était assis devant une fenêtre ouverte. C'était un garçon démesuré, un peu voûté, Il s'appelait Adam. Adam Polo. Il avait l'air d'un mendiant, à rechercher partout les taches de soleil, à se tenir assis pendant des heures, bougeant à peine dans les coins de murs.
L'histoire d'un garçon qui un jour décide de partir à la rencontre des hommes dans la ville, pour simplement leur parler, et que l'on va déclarer fou, enfermé dans un asile. C'est le tout premier roman de Le Clésio, première couverture blanche chez Calimard. C'était en 63, et il a frôlé le Goncourt, mais il a été sacré par le Renaudot. Et si je vous en parle de ce roman, c'est pour la préface de Le Clésio, tout en doute, en modestie et en humour.
J'ai deux ambitions dans la vie. L'une d'elles est d'écrire un jour un roman tel que si le héros y mourait au dernier chapitre, je sois accablée de lettres anonymes et ordurières. De ce point de vue, le procès-verbal n'est pas tout à fait réussi. Il se peut qu'il pêche par maniérisme ou excès de sérieux.
Pas si souvent que les auteurs se montrent aussi humbles. Et c'est ça la marque des grands, des très grands. Et quand on l'écoute, on a exactement la même impression.
Je m'appelle Jean-Marie Gustave Le Clésio. Je suis né à Nice, d'un père anglais et d'une mère française. Je suis grand et maigre. À l'île Maurice, d'où ma famille est originaire, les Le Clésio portent le surnom de Neclésio. J'ai commencé à écrire des livres en pensant que ce qu'il fallait, c'était écrire des histoires. Et puis ensuite, j'ai continué en pensant qu'il fallait écrire des idées. Et j'ai continué en pensant qu'il fallait décrire des personnages. Et maintenant, je ne sais plus pourquoi j'écris. Peut-être que j'écris simplement pour faire de la musique avec les mots, pour comprendre qui je suis et qui sont les autres, pour les interroger, pour quelquefois recevoir leurs réponses. Écrire, je crois que c'est une certaine façon de vouloir réinventer le monde. Et ce qu'on obtient quand on sort d'un périmètre qu'on connaît et qu'on va vers l'inconnu ou qu'on va, comme on dit, au bout du monde, ce qu'on trouve là, c'est justement cette remise en question de soi-même et la remise en question des valeurs morales, psychologiques et même de tout le système de vie.
Jean-Marie Le Clésio, ou une vie dédiée à l'écriture, vraiment conseil. Profitez de l'hiver pour vous plonger dans ces univers. Chacun peut trouver son monde dans l'œuvre de cet homme qui l'a arpenté dans tous les sens et qui continue, pour toujours, d'essayer de comprendre un peu mieux les hommes. Vaste programme. Sur le comptoir des livres, aujourd'hui, un titre au menu, Charlie ?
Eh bien, j'ai choisi Louis Calaferte avec Septentrion, donc publié en 1963, rapidement retiré de la vente car tari de romans pornographiques, et il faut attendre à peu près 20 ans avant une nouvelle réédition, c'était en 1984. Alors, un roman probablement autobiographique, qui tourne autour du questionnement de l'écrivain, et puis surtout d'une femme, là, une nymphomane hollandaise qui est rentière et qui lui donne beaucoup d'argent. Et lui va s'évertuer à combler les pulsions perpétuelles de cette femme. Et cependant, donc, tout ce qu'il n'arrivait pas à faire, lui, elle lui donne de l'argent, il va à l'opéra, ça lui permet de bien vivre. Et il tombe dans un paradoxe avec un orgie de bien-être matérialiste qui l'empêche d'écrire. Alors c'est un livre fort, c'est percutant, c'est clair que c'est très cru, mais c'est très chouette. Et Philippe Solaire s'avait dit ne pas avoir lu ou ne pas lire sur le champ Septentrion est foncièrement immoral.
Et il a raison, et encore dans l'immoralité, dans l'érotisme, vous avez La mécanique des femmes de Louis Calaferte, qui est un roman superbe, des petites pensées. Françoise ?
Alors coup de cœur pour un dictionnaire. Alors celui-là, il fait un petit clin d'œil aussi à Le Clésio, parce que Le Clésio, voyageur, écrivain. Et ce dictionnaire s'appelle Dictionnaire des lieux imaginaires. Il recense tous ou presque les lieux, contrées, pays, royaumes, cités, imaginés dans la littérature mondiale. Donc c'est à la fois un répertoire et une encyclopédie. On a tout sur ces pays, à la fois érudit et alléchant. Et il a été composé en 2 ans, et la visite littéraire de presque 2000 lieux, par 2 auteurs, donc Gianni Guadalupi, qui est italien, et Alberto Manguel, qui est d'origine argentine, qui est aujourd'hui canadien, je crois, de nationalité. Et voilà, donc c'est super. Alors c'est un dictionnaire qui tient dans la poche, c'est même au livre de poche, et c'est nourri, pourri d'invitations à voyager dans la littérature, à voyager dans le monde imaginaire, et c'est super.
Dans le droit fil de Le Clésio. Et de mon côté, Un livre noir qui, d'entrée de jeu, par le titre, donne le ton. Quatre cercueils, deux noirs et deux blancs. Un roman signé d'un journaliste écrivain catalan, Pep Coll. Mais en fait, ce n'est pas un roman. C'est une histoire réelle, et c'est ça qui est le drame. Et tous les personnages qui prennent la parole dans le livre pour donner leur point de vue, leur version, ont tous bel et bien existé. Nous sommes en 1943, dans un coin perdu des Pyrénées catalanes. Les plaies de la guerre civile espagnole sont loin d'avoir cicatrisé. Les rancœurs et rivalités sont à fleur de peau. Et pour une histoire de lopin de terre banale, une rivalité de paysans, toute une famille est dessinée. Les parents, deux cercueils noirs. Les enfants, deux cercueils blancs. Tout le monde connaît les meurtriers. Tout le monde fait comme s'il ne savait pas. Et malgré le meurtre, on se replie sur soi-même. On fait comme si rien ne s'était passé. Alors bien sûr, à l'abri des oreilles indiscrètes, on en parle, on donne sa version. On accuse ou on excuse. C'est terrible, comme tous ces drames que l'on veut oublier dans des coins reculés. Comme si dire était encore plus terrible que de se taire. Mais peut-on vivre en paix dans ce coin de la Catalogne quand l'ombre du drame plane aujourd'hui encore? C'est à cette question que répond Pep Coll par un travail d'enquête, une récolte de témoignages, une mise en situation. C'est terrible et étouffant. On se trouve être spectateur impuissant et nous-mêmes pris au piège du secret. Mais le pire, c'est qu'on ne lâche pas le livre, en espérant trouver à la page suivante un petit peu d'air frais. Conseil à lire absolument pour comprendre les ravages intérieurs d'une guerre civile, des ravages qui se prolongent aujourd'hui encore. Quatre cercueils, deux noirs, deux blancs, de Pep Coll, chez Actes Sud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.